Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commerce Élite. Et on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Lucas Delanne, chargé de la croissance chez l'entreprise Duproprio. Duproprio qui fait maintenant partie de la grande famille de Desjardins est une des entreprises que Lucas et son équipe ont à piloter au niveau marketing et ce de manière quotidienne. On va donc parler de stratégie d'acquisition aujourd'hui et également des techniques à utiliser pour améliorer la qualité de nos prospects. Lucas Delanne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Là. Ça fait très plaisir d'être ici, puis de pouvoir discuter de marketing avec vous.
Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le domaine du marketing, dans le monde de l'acquisition au niveau général. Donc, il va y avoir beaucoup de sujets assez intéressants aujourd'hui, Lucas. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que c'est possible pour toi de nous faire un court résumé du travail que tu fais au quotidien chez Duproprio?
Oui, ça marche. Ben, je vais faire ça assez rapidement, de manière assez large. Ben, moi et mon équipe, en fait, on travaille vraiment à la génération de business pour Duproprio. Donc, ça va se caractériser comment? On va travailler sur, de manière globale sur toutes les plateformes marketing numérique pour essayer de générer le plus de leads possible. Ça va passer par du Google Ads, du Facebook Ads, du Bing Ads, tout ce dont un marketeur peut rêver, entre guillemets. On va tester un peu tout. Ça va aussi passer par, naturellement, l'optimisation des performances on-site. On va essayer de créer les parcours utilisateurs les plus efficaces possibles. On va essayer de créer des flows intéressants, que les campagnes soient en adéquation avec le site, etc. Ça va aussi passer par la compréhension de la donnée. Pour faire du bon marketing, il faut comprendre à qui on parle, il faut comprendre qui on a en face de soi. Donc, tout l'aspect tracking, tout l'aspect compréhension de la donnée au travers de GA4, GA... ça va rentrer dans notre cours. En gros, c'est un peu de choses près ça.
Beaucoup de travail qui part des plateformes publicitaires et qui se termine également sur le site web à la fin de la journée. Donc, c'est des mandats assez colossaux. Et bon, Lucas, le marketing, les stratégies de commercialisation, ça commence toujours via une analyse de l'état actuel de la situation. C'est-à-dire, on regarde qu'est-ce qu'on a devant nous, on regarde ce qui est fonctionnel et ce qui est non fonctionnel. Et par la suite, on pose des thèses, on passe à l'action et on essaie d'améliorer les résultats. Est-ce que de ton côté, tu pourrais peut-être aujourd'hui me dire... quand tu es arrivé et que tu avais à travailler sur les campagnes de Duproprio, ça ressemblait à quoi? Est-ce qu'il y avait beaucoup de travail à faire? Est-ce que tu as dû changer beaucoup d'initiatives qui étaient déjà en place?
Mm-hmm. Ben, je pense que j'ai fait un peu de choses près comme tout le monde. Quand une personne elle arrive généralement dans une entreprise, le premier réflexe est de tout changer. Je pense que c'est global, un peu de choses près pour tous ceux qui font du marketing. Pour Duproprio, en fait, les premiers constats qu'on était, c'était il y avait une génération de leads qui était déjà en place, qui fonctionnait, entre guillemets, mais on générait énormément de leads, donc un volume qui était très important pour une qualité qui était moindre. Fait qu'à mon sens, ce que je répète toujours à mes équipes, là, c'est avoir des leads, c'est bien, mais avoir des leads de qualité et pas cher, c'est beaucoup mieux. Donc le premier constat, ça a été ça, et puis c'est surtout de comprendre en fait ce qui se passe. Fait que c'est vraiment important, à mon sens, dans une entreprise, d'avoir un tracking qui est irréprochable, avoir une compréhension de données qui est irréprochable, parce que c'est la base de tout. Si on ne comprend pas d'où viennent les leads, si on ne comprend pas qui est qui, quels sont les arguments, ben, on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas changer nos stratégies, on ne peut pas faire tout ça. Fait que la première job à Duproprio, ça a été de mettre en place tout ce tracking-là, toute cette compréhension de la donnée au travers du CRM. Quand un lead rentre, moi, ce que je veux savoir, c'est... quelle plateforme il vient, de quelle campagne il vient, de quel créatif il vient, quel est son taux de closing, quel est son taux de conversion. Toutes ces infos-là, elles n'existaient pas nécessairement dans Duproprio. Donc, la première job, ça a été de mettre tout ça en place. Ce qui n'a pas été de masse à faire, mais on a bien réussi, on a bien fait ça. Là. Donc, maintenant, on a une vue très globale de tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre CRM. Et puis, après, bah, ça a été de prendre toute cette donnée-là et puis d'essayer de la comprendre naturellement, de se dire, bah, auquel cas, on rentre des leads, on en fait un gros volume, mais est-ce que c'est vraiment un volume qui est pertinent? Là, la réponse, elle était facile, c'est que le volume n'était pas pertinent. On envoyait énormément de leads, mais qui n'avaient pas nécessairement de projet de vente, qui nous intéresse pas globalement parce qu'ils ne rapportent pas de business à la société. Donc, est-ce que la solution, c'est pas juste de réduire ce volume-là pour aller travailler en qualité? Donc, c'est ce qu'on a fait. On a revu nos priorités, revu nos chiffres, parce qu'un lead, en général, de qualité va coûter plus cher qu'un lead de mauvaise qualité. Donc, on revoit nos chiffres, on revoit nos performances, on revoit nos plateformes. Encore une fois, tu sais, je pense que c'est vraiment important. Toutes les plateformes ne sont pas, n'obtiennent pas les mêmes performances. Il y a des plateformes qui sont plus adaptées que d'autres selon le marché. Donc, la job, ça a été ça aussi, c'est de revoir la stratégie au global, revoir sur quelle plateforme on allait se focusser, revoir les investissements par plateforme, puis revoir tous les arguments. Fait que c'est pas mal ça, la grosse job de départ de Duproprio, tout mettre au clair et puis refocuser sur les choses les plus performantes et les plus qualitatives.
Et après cette analyse-là, après ce diagnostic, qu'est-ce qui en sort? Est-ce que finalement, on a uniquement un canal qui nous amène la majeure partie de nos leads? Est-ce qu'on doit retravailler plusieurs choses?
Non, il y a pas qu'un canal. On a de la chance quand même. Notre audience est quand même assez bien répartie. Quelqu'un qui veut se mettre en vente, ben, ça touche à peu de choses près tout le monde entre guillemets. C'est pas simplement une population particulière. Donc on peut aller les travailler de plein de manières différentes. Ça c'est une chance vraiment de pouvoir s'étendre sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur TikTok, sur le display, etc. Là, on a vraiment cette chance-là. Maintenant, le plus important, c'est plutôt l'argument qu'on va venir mettre dans ces campagnes. Qu'est-ce qui fait que les gens vont nous considérer? Duproprio, c'est vraiment une alternative à la vente de propriété. Ça faut que les gens le comprennent. On vient pas supplanter le courtage ou ces affaires-là. Là, c'est vraiment une alternative. Mais pourquoi les gens viendraient choisir cette alternative-là? Quels sont les arguments qui vont les pousser à nous considérer plus qu'un courtier? Bah, tout ça, c'est le travail qu'on a mis en place, là. Et que pas un seul canal, je dirais plein de canaux différents avec des arguments différents par canaux. Et puis, derrière ces canaux, un parc utilisateur qui doit faire du sens. Ça a été ça, là, le boulot.
Et au final, ton mix média, parce que c'est souvent ce qui se déroule après un diagnostic, c'est on peut garder, et je pense que tu l'as bien dit, votre clientèle, elle est large. Vous avez un marché qui est assez grand. Vous pouvez vous adresser à quelqu'un sur YouTube, comme sur Instagram, comme sur TikTok, comme tu l'as mentionné. Mais est-ce que tout de même ton mix média, et peut-être parlons en ligne et par la suite, on parlera peut-être un peu traditionnel. Je ne sais pas si tu as travaillé dans le volet traditionnel, mais on regardera par la suite. En ligne, au final, est-ce que tu as une bonne proportion de tes budgets sur chacune des plateformes ou tu as vraiment un canal qui prend la majeure partie de ton budget publicitaire?
La répartition est quand même, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est équitable, mais elle est quand même suffisamment bien répartie. Nous, on travaille vraiment à la performance, c'est-à-dire qu'on identifie vraiment les plateformes les plus performantes et on va switcher les budgets vers ces plateformes-là, justement, ce qui paraît le plus logique. Mais il y a aussi une notion à prendre en compte, c'est que c'est pas parce qu'on met énormément d'argent sur la table sur une plateforme qu'elle va continuer de bien performer.
Bien sûr.
L'idée, c'est d'identifier quel est le bon sweet spot d'investissement pour chaque plateforme, pour qu'elle garde des coûts par acquisition qui sont intéressants pour nous et puis pour qu'elle garde un volume intéressant. Fait que ce travail-là, chez nous, il est fait en continu. C'est-à-dire qu'au mois par mois, on va regarder les performances de chaque plateforme. Je dis pas qu'on va faire des changements à tous les mois, là, sinon ce serait peut-être un peu intense, mais on va regarder un peu tout ça tout au long de l'année, selon la saisonnalité aussi, et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Puis on va adapter nos budgets en continu pour toujours essayer de venir pallier à toutes les éventualités. Donc ouais, les budgets sont quand même assez bien répartis. On met beaucoup l'accent sur les plateformes qui génèrent de la conversion. Et sans grosse surprise, là, on va parler de Google Ads, Facebook Ads, qui sont les plus gros générateurs aujourd'hui, là. Mais on garde quand même une petite portion sur les autres réseaux. Et puis, on fait beaucoup de R&D aussi. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est que une plateforme qui est performante à un instant T le sera peut-être plus d'ici 3 mois, 4 mois, 1 an. Par contre, ce sera peut-être une autre qui va venir la supplanter. Donc, ce travail de R&D, de toujours garder un budget dans la poche qui n'est pas voué nécessairement à faire énormément de conversions, mais à simplement tester les nouvelles plateformes, voir si on a des opportunités, je pense que c'est réellement important et c'est ce qu'on fait, nous, à Duproprio.
Et dis-moi, qu'est-ce que tu trouves en ce moment dans ton R&D?
Y a quand même pas mal de choses qui peuvent ressortir. Là, je pense que Pinterest a vraiment un gros potentiel. Je pense que c'est d'après ce que je lis aussi autour de moi, ça a l'air d'être une des plateformes en vogue pour 2024. Donc, je pense que c'est réellement intéressant. Et puis, tu sais, on peut donner un contre-exemple. Mettons, on a essayé de tester sur TikTok pour Duproprio. On ne sait jamais. C'est sûr que c'est des audiences qui sont plus jeunes, etc. Mais ça valait le coup d'essayer. Et puis, malheureusement, là, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un marché pour nous. Là, trop compliqué en termes de gestion de communauté, en termes de tout ça. Donc, là, la décision a été prise de juste quitter la plateforme pour l'instant jusqu'à ce qu'on soit prêt à y retourner. Donc c'est ça, en gros.
Pinterest, intéressant. Parce que souvent, les enjeux que les marketeurs vont rencontrer avec Pinterest, c'est énormément d'attributions sur la plateforme, très peu d'attributions sur un logiciel tiers. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu également de votre côté ou vous avez finalement été capable de comprendre que Pinterest a un réel impact sur votre entreprise?
En fait, les modèles d'attribution, nous, on les gère pas sur les plateformes directement, on les gère avec des modèles d'attribution qui sont externes. Donc comme ça, on a une vision qui est plus claire là. Je pense que ceux qui bossent dans le marketing le savent là. Les plateformes en elles-mêmes, elles vont toujours essayer de s'attribuer les conversions là, mais c'est logique, c'est normal. On les pardonne pour ça. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste avoir la bonne vision. On se base beaucoup aussi sur nos données CRM, étant donné qu'on remonte la totalité des sources dans notre CRM. Là, on va plutôt travailler au dernier levier payant, mettons. Quelle a été la campagne qui a créé la conversion? Quelle a été la publicité qui a créé la conversion? Qu'on va vraiment analyser un petit peu au global toutes ces affaires-là et on va quasiment jamais regarder au niveau des plateformes. Fait que oui, Pinterest, elle peut avoir un bel impact si on envoie les bonnes publicités à la bonne audience dessus. Puis une notion importante aussi, c'est que c'est pas parce qu'une plateforme ne génère pas nécessairement un gros volume de conversions qu'elle a pas un impact dans la société. Je vais prendre un exemple très concret, c'est que Facebook aujourd'hui, elle ne s'attribue pas chez nous un très gros volume de conversions. Mais quand on regarde dans le détail, dans les GFO, dans toutes les analyses, elle est quasiment tout le temps un point de contact. Donc, il y a toujours une personne qui va cliquer sur une de nos publicités Facebook, qui après va aller sur Google Ads, va cliquer sur une pub et va convertir. Donc, c'est vraiment important. Ça veut dire que dans notre écosystème, Facebook Ads est un point de contact essentiel pour la conversion. Mais ils ont besoin de passer par là avant d'être convaincus. Donc, il ne faut juste pas non plus avoir une vision focus que sur les conversions. Il faut aussi prendre, voilà, c'est ça, la globalité du parcours utilisateur. Là.
Intéressant. Et bon, Pinterest, est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu as testées qui ont peut-être pu capter ton attention? Je serais curieux de tester TikTok. Est-ce que vous avez fait du Snapchat Ads? Est-ce que vous avez eu certains résultats ou pas du tout?
Non, on s'est pas trop lancé sur Snapchat Ads. Là. On a d'abord testé TikTok et puis je suis un peu parti du principe que Snapchat, c'était pas mal les mêmes audiences. Là. Donc, on s'est pas risqué à ce genre d'affaires-là. Là. Mais en ce moment, on va plutôt tester toutes les nouvelles opportunités qu'on a sur du Google. On a les PMax qui tournent en ce moment. On a les nouvelles options qui est sortie là. J'ai mangé le nom là pour Google Ads. Là, je sais plus ce que c'est, mais une nouvelle manière de créer des campagnes. Bref, on va tester toutes ces bêtas entre guillemets là, parce que à mon sens, Performance Max c'est encore une bêta. Ils sont pas encore tout à fait finalisés là-dessus. Là. On va tester un peu toutes ces nouvelles choses, tout ce qui sort sur Facebook, toutes ces affaires là. On va les tester. Et puis en ce moment, on est dans un marché qui est un peu compliqué là. On s'entend là, avec les taux d'hypothèque qui sont très chers, toutes ces affaires là. Donc j'ai envie de te dire que la recherche a été drastiquement réduite pour se focaliser sur la performance.
Puis on en parlera un peu plus tard parce qu'effectivement, les tendances macroéconomiques peuvent impacter les campagnes de pub à la fin de la journée. Un autre point, Lucas, qui avait marqué mon attention quand on discutait toi et moi ensemble, c'est relié à ton étude qualitative. C'est-à-dire que tu me disais que pour lancer des campagnes de pub, bien entendu, vous alliez faire vos recherches, mais vous alliez également beaucoup vous entretenir avec les équipes de service client, les équipes de vente pour comprendre les réalités du consommateur. Peut-être tu pourrais nous expliquer un peu comment vous vous y prenez aujourd'hui. Quel est le modus operandi utilisé chez Duproprio pour analyser ce que le consommateur vit et pour ultimement créer des campagnes de pub?
Oui, bien sûr. En fait, le constat, il est assez simple. C'est que on a une équipe de vente et cette équipe de vente-là, elle est en constante conversation entre guillemets avec les leads qu'on leur envoie. C'est eux qui discutent avec l'utilisateur, c'est eux qui reçoivent le oui ou le non final. Donc, tous ces arguments-là qui leur permettent de prendre une décision, c'est eux qui sont capables de nous rapporter ça auprès du marketing. Donc, c'est vraiment important d'avoir leur feedback. Et puis, il y a un élément qui est essentiel, c'est que pour qu'on puisse avoir ce feedback-là, il faut que nous, on leur en donne aussi. Et puis, tout à l'heure, je parlais de tracking. C'est un des éléments essentiels, à mon sens, d'une bonne stratégie, c'est de pouvoir envoyer aux ventes toutes ces informations-là d'un lead, de lui dire de quelle source il provient, de quelle campagne il provient, quel argument lui a été soumis pour que le vendeur, derrière lui, quand il a ces informations-là dans le CRM, il soit capable de se dire, OK, cette personne-là, elle a été soumise à tel et tel argument. Peut-être que c'est des points sur lesquels j'ai moins besoin de me focusser pour éventuellement le convaincre sur d'autres affaires. Donc ça, c'est vraiment important pour eux. Et puis, ça va être ça, donc le tracking. Et puis, dans un second temps, ça va être, comme tu le disais, de discuter avec eux. Moi, je fais beaucoup de réunions avec le service des ventes et des opérations. Et puis, dans ces réunions-là, c'est pas très compliqué, en fait. C'est simplement, moi, je vais venir leur dire qu'est-ce que je vais mettre en place, quels sont mes arguments, quelles sont mes nouvelles initiatives et est-ce que ça correspond au marché actuel? Est-ce que des retours qu'ils ont des leads, est-ce que ça peut correspondre? Est-ce que eux, ils ont un point de frustration important au téléphone qui peuvent me redonner pour que je puisse directement aller l'adresser dans mes campagnes. Je vais vous prendre un exemple assez simple, mais si une personne, elle dit, je je connais du proprio, mais je comprends pas le service. Ça, ça a été quelque chose qu'on a rencontré par le passé. Si vous comprenez pas le service, ça veut dire que mon marketing, il est pas bon. Ça veut dire que je vous l'ai pas bien expliqué en amont. Ça veut dire que mes pages de destination ne sont pas assez chargées en contenu pour que vous puissiez comprendre avant d'être au téléphone ce que nous, on réalise déjà de base. Donc, vous êtes pas rassuré. Donc, je vais changer mes stratégies, je vais changer mes discours pour adapter ça. Et puis, dernier point, eh ben, c'est de regarder si les données que moi, j'ai de mon côté sur mes plateformes, elles sont en adéquation avec les données qu'ils ont dans les CRM. Donc, les taux de conversion, la qualité des leads, etc. J'ai absolument pas peur à ce que une équipe de vente vienne me dire, bah, telle campagne-là, elle nous envoie que des leads de mauvaise qualité. Bah, ok, que des leads de mauvaise qualité, je coupe la campagne, je pars autre chose, je change mes arguments. Faut savoir rebondir, faut savoir changer ses affaires, son fusil d'épaule. Parce que, en plus de ça, il y a un facteur très humain derrière cette démarche-là. C'est que si j'envoie 3000 leads aux ventes, et puis dans ces 3000 leads, il y en a que 50 qui sont de qualité. Le vendeur qui va prendre son téléphone à tous les jours, là, au bout de 3 semaines, il va faire une dépression à force de parler à quelqu'un qui est pas du tout intéressé par la vente de propriété ou autre. Alors que si je fais un travail d'amont de lui envoyer toujours des leads de qualité, eh ben, sa performance au vendeur là, elle sera décuplée parce qu'il va se dire à chaque fois que je prends mon téléphone, je vais parler à quelqu'un d'intéressant, je vais pouvoir faire ma job d'essayer de le convertir. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment ultra important aussi là.
Fascinant. Puis bon, un autre point qui, je pense, pourrait être intéressant de discuter un petit peu, tu en as fait écho un petit peu plus tôt, situation macroéconomique, taux d'intérêt à la hausse. Le secteur de l'immobilier est un des secteurs les plus touchés. Il y a eu des changements également récemment. La loi C-25 qui est mise en place, iOS 17 qui est intégré. Bref, on dirait que différents joueurs se sont mis dans nos pattes pour nous empêcher d'avancer à la vitesse qu'on veut. On gère ça comment de votre côté? Parce que définitivement, ça doit avoir un impact tout ça. Là.
Ça a un impact, oui. On gère ça comme on peut, entre guillemets. On fait comme tout le monde, on s'adapte. C'est sûr que ça a eu des... Donc on a vu des baisses de performance sur toutes les plateformes. Là, c'est obligatoire. Là, je pense que personne n'y coupe. On a nos CPA, nos revenus qui baissent, nos CPA qui augmentent, toutes ces affaires-là, ça a forcément... Ça a des impacts importants, entre guillemets. Je pense que la bonne logique à avoir dans ce cas-là, c'est juste de prendre conscience de ce qui se passe. On est dans un marché difficile, tout le monde le sait. Ok, on sait que ça va être plus compliqué pour nous dans les mois futurs. Les chiffres vont pas être les mêmes que quand on était dans une période adéquate. Fait que prenons tout ça en considération et révisons en fait notre stratégie. Je pense que quand on rentre dans un marketing de crise comme ça, il faut juste oublier ce qui s'est passé auparavant parce que c'est plus valable. On peut pas comparer une donnée dans une période de crise et puis une donnée qu'on avait quand tout allait bien. Ça n'a rien à voir parce que les marchés sont totalement différents. Les modèles de réflexion des clients sont totalement différents. Il y a vraiment cette notion-là à se dire, ok, occultons totalement ce qu'on a fait auparavant et on réfléchit à comment on s'adapte aujourd'hui. Fait que ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis du proprio, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Il faut rayonner plus que jamais dans ces périodes-là. Je vois, et puis ça a été validé par divers... j'y réfléchis parce que ça me fait un peu rire. Ma blonde a sorti il y a pas longtemps une étude sur le marketing de crise, justement. Et puis il y avait plein de chiffres vraiment super intéressants là-dedans qui disaient que pendant les périodes de crise, c'est là où les entreprises doivent être le plus fort en marketing et non pas faire le premier réflexe de tout le monde de se dire je vais couper le marketing parce que j'ai plus de revenus. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire parce que au moment où le marché va revenir à sa stabilité de base, bah, vous aurez totalement disparu au profit des concurrents qui auront gardé les investissements. Fait que moi, je pense que la bonne stratégie à prendre, c'est continuons, soyons encore plus forts. Mais pour être plus fort, eh bah, il faut justement se permettre d'un peu moins réussir, de se dire mes coûts par acquisition vont être plus élevés, mon revenu va être moindre, je vais faire moins de leads et on vit avec ça et on s'adapte. Et puis, on va se focusser sur ce qui marche vraiment le mieux. Donc, c'est ça que je te disais un peu tout à l'heure. On arrête un petit peu la recherche. On arrête de s'éparpiller un peu partout. On va se focusser vraiment sur ce qui marche. Et surtout, on essaye de se faire rayonner. Donc, on essaye d'apporter beaucoup d'arguments de réassurance, du storytelling, de pousser beaucoup plus les avantages, de faire comprendre aux gens que même dans une période de crise, l'entreprise est suffisamment solide pour les accompagner vers le service qu'on leur propose. Donc c'est ça.
C'est tellement bien dit. C'est David Ogilvy qui disait ça. Quand les choses vont bien, c'est important de faire du marketing. Quand les choses vont moins bien, c'est primordial de faire du marketing et de la publicité parce qu'effectivement, c'est une période où, bizarrement, c'est l'instinct humain. Les gens vont arrêter de faire de la pub parce qu'ils vont voir ça comme une dépense superflu et il va y avoir plus de place pour les autres. Et quand il y a plus de place pour les autres, c'est à vous de prendre tout ce qui vous appartient et quand les choses reviendront à la normale, parce qu'elles reviennent toujours à la normale, vous allez être en tête, dans la tête de la majeure partie de vos consommateurs et vous allez être capable de gagner des parts de marché. Donc, je pense que c'est bien dit. On doit continuer, même quand les choses sont un peu plus complexes. Lucas, peut-être pour terminer, j'aimerais que tu me dises À quoi ressemble le marketing, les stratégies, les initiatives que vous pensez mettre en place dans les 12-24 prochains mois de votre côté?
Oh là, la liste est longue. il y a beaucoup de choses qu'on souhaite faire à Duproprio. Là, je pense qu'en plus, on est un peu dedans là, parce qu'on prévoit 2024 naturellement. C'est quand tout le monde a beaucoup d'idées pour se projeter, mais je pense que continuer déjà le travail de qualification, continuer de revoir les parcours utilisateurs, d'avoir toujours des parcours plus innovants, plus proches de la réalité, c'est vraiment important. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette logique-là. La compréhension de la donnée devient encore plus importante aujourd'hui que jamais, avec tout ce dont on a parlé dernièrement, là, les nouveaux GA4 qui changent un peu les visions, la loi 25, la disparition des cookies, toutes ces affaires-là. La donnée va devenir essentielle dans le marketing. Et elle l'était déjà de base, mais encore plus aujourd'hui. Et puis, s'adapter un peu au nouveau marketing. Il y a plein de nouvelles manières maintenant qui vont sortir pour pouvoir discuter avec son audience. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place, d'avancer petit à petit. Et puis, on va s'adapter comme tout le monde.
Fantastique. Luca, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été une conversation des plus fascinantes. On voit que tu connais ton métier, tes analyses sont à point. Et je suis convaincu qu'elles pourront aider les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Si on veut en savoir un petit peu plus sur toi, LinkedIn, meilleur endroit pour te rejoindre?
Probablement LinkedIn, ouais.
Fantastique, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Luca Delanne, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercer.